avec Emmanuel Macron et au standard d'Inter, Béatrice qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Béatrice.
Bonjour tout le monde. J'ai été très perturbée par la mesure de Monsieur Macron de mettre des autobus à bas coût sur les routes après avoir participé à la réussite de la COP21. Je trouve que c'est quand même dommage d'exposer les personnes à petits moyens à des risques d'accident plus élevés alors que l'on pourrait développer les trafics ferroviaires. Et donc, en prolongement de ma question, quelles seront vos propositions en matière d'écologie ?
Eh bien voilà. Merci Béatrice, vous n'êtes pas la seule, parce qu'effectivement c'est un sujet que, faute de plan, on n'a pas pu aborder jusque-là, mais il convenait de le faire absolument. Emmanuel Macron.
Bonjour madame. Alors, sur les autobus, je vais être très clair, moi je crois beaucoup à cette réforme qui n'est pas anecdotique. On a ouvert le secteur en effet des autocars en France qui était jusqu'à présent très fermé. Ça a permis de développer énormément de mobilité dans notre pays. Avant cette réforme, il y avait environ 100 000 voyageurs par an. On est aujourd'hui à plus de 4 millions. Ce qui d'ailleurs nous fait rejoindre les autres grands pays européens où ce secteur était développé. Est-ce que ça pollue et est-ce que ça crée plus de risques ? Bah, écoutez, quand je regarde la dernière analyse qui a été faite par l'ARAFER, qui est l'autorité indépendante, qui a montré un petit peu les choses, ça ne se substitue que très marginalement au transport ferroviaire. Et d'ailleurs, ça commençait à se faire. Quiconque a vécu ou vit en province et a pu voyager, moi je viens d'Amiens, je peux vous dire qu'il y a eu des lignes qui se sont progressivement substituées, des lignes d'autocars organisées par la SNCF à des lignes classiques. Et donc, dans la politique de la SNCF, parfois, on a fait ce remplacement. Mais c'est très marginal. Le gros, si vous voulez, de ce trafic, c'est du covoiturage ou de la mobilité individuelle qui est remplacée par de la mobilité collective. Donc c'est une bonne chose pour l'environnement. C'est-à-dire c'est moins de transport par véhicule individuel, c'est moins de transport par covoiturage et c'est plus de transport collectif. Ensuite, c'est aussi des nouvelles formes de mobilité. C'est-à-dire qu'il y a des liaisons qui ne sont pas reliées par le train et qui ne peuvent pas l'être pour des questions de rentabilité, pour des questions d'infrastructure, et on ne va pas mettre de la voie ferrée partout. Et je vous incite à regarder d'ailleurs les liaisons est-ouest dans notre pays, elles sont très mauvaises, et donc vous deviez parfois repasser par Paris pour aller rejoindre de Lyon à Bordeaux ou quelques villes que ce soit, préfecture ou sous-préfecture, entre ces deux points. Et donc là, des lignes d'autocars se sont développées dans le pays pour permettre cette mobilité. Ensuite, nous avons veillé dans les textes réglementaires à ce que ces autocars soient aux standards européens les plus exigeants, c'est-à-dire les normes Euro 6, c'est-à-dire très peu polluants, les moins polluants possibles. Et donc, on n'a pas le droit, avec des flottes d'autocars polluants, de pratiquer les choses. Et comme ça remplace essentiellement du covoiturage et la voiture individuelle, c'est moins accidentogène, malgré tout, que le véhicule individuel. Et dernier point, il y a 900 000 Françaises et Français, je fais référence à ce que l'ARAFER a montré, qui ne se déplaçaient pas et qui se déplacent grâce à cette réforme. C'est donc aussi de la mobilité sur le territoire. Et ça, c'est très important parce que c'est de la mobilité pour aller au travail, c'est de la mobilité pour aller vers la culture, c'est de la mobilité pour aller retrouver sa famille. Et c'est une bonne chose. Donc là-dessus, il ne faut pas être malthusien.
Deux questions simples qui nous reviennent beaucoup au standard. Vous, Président, est-ce que vous fermez Fessenheim ?
Moi, Président, je garde, je reprends votre formule.
Il n'est pas de moi.
Je garde, j'avais compris que vous citiez dans le texte, je garde la trajectoire actuelle de transition énergétique. Et donc, dans le cadre de la discussion qui est commencée avec EDF, je pense qu'il faut conduire à son terme le projet Fessenheim avec, derrière un engagement que l'État doit prendre.
Vous ne voulez pas parler clairement, conduire à son terme le projet
Fessenheim. Mais ça veut dire que, mais c'est un sujet que vous ne prenez pas seul. Parce que c'est lié à l'entreprise publique. Donc, très concrètement, un, je garde la loi de transition énergétique. Deux, dans ce cadre-là, la fermeture de Fessenheim est aujourd'hui en train d'être préparée, elle doit être menée à son terme. Trois, avec des vraies mesures de compensation économique et d'accompagnement, c'est-à-dire des emplois et des compensations données sur le territoire pour recréer de l'activité économique. Sur le sujet de l'économie et de l'environnement, pour être très clair, moi je crois, puisque c'était la question de madame, et je pense qu'elle est importante. Moi, je crois en effet à la transition écologique et environnementale, et je crois à l'écologie en ce que c'est un humanisme radical. Je ne crois pas à l'écologie punitive, mais je crois que l'écologie, elle fait partie intégrante aujourd'hui de notre modèle économique et de notre modèle de civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on ne peut plus produire de la même façon. Qu'on ne peut plus avoir une approche dérégulé comme on l'a eu sur le plan mondial. Ça suppose des initiatives sur le plan national, sur le plan européen, sur le plan mondial. J'y reviendrai en détail, mais pour être très concret, sur le plan national, je suis favorable à ce qu'on ait une vraie politique d'investissement dans les énergies renouvelables, pour justement conduire cette montée en gamme. Je suis favorable à ce qu'on ait une vraie politique, aujourd'hui, de convergence entre l'essence et le diesel, sur 5 ans, pour écraser la différence et permettre la transformation de notre industrie, donc de manière progressive et raisonnée, sur le plan européen.
Mais vous n'êtes pas d'accord avec Anne Hidalgo et vous ne pensez pas qu'on puisse faire disparaître le diesel en quelques années.
Mais je pense que aujourd'hui, qui roule, quel est le problème essentiel du parc français? Ce sont les vieux diesels qui sont polluants. Donc ce qu'il faut faire, c'est réduire l'avantage fiscal qu'on a créé à la pompe depuis des décennies en faveur du diesel, parce qu'il faut être cohérent, c'est d'abord la première chose. Donc il faut chaque année réduire cet écart, on peut le faire sur un quinquennat, c'est ce à quoi je m'engage. Et ensuite, il faut aider les ménages qui aujourd'hui, parce que ce sont bien souvent les plus modestes, les classes moyennes, qui aujourd'hui roulent avec un véhicule diesel polluant, à pouvoir changer de véhicule. Donc je suis favorable à aller plus loin que ce qui est aujourd'hui prévu, c'est-à-dire un bonus pour ces ménages, pour qu'ils puissent se rééquiper.
Mais les diesels modernes polluent aussi.
Les diesels modernes, vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que je suis pour supprimer l'avantage fait par le diesel et permettre ce changement. Simplement, les vraies politiques, elles se font de manière cohérente et progressive. Ensuite, sur l'écologie et l'environnement, je suis favorable à un prix plancher du CO2 au niveau européen, c'est-à-dire un vrai marché européen de l'environnement et de l'énergie. On en a parlé tout à l'heure en évoquant la souveraineté. L'Europe doit avoir un projet énergétique et environnemental. Il ne peut pas être que français, parce qu'à ce moment-là, vous créez des déséquilibres au sein même de l'Union. Mais c'est une exigence européenne que la France doit porter et que je porterai.
Et vous, Président, vous lancez la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes parce que la consultation a eu lieu, avez-vous dit?
Oui, je l'assume. Je pense que, sur le fond, ce projet a été très mal emmanché. Ce projet relève d'un modèle qui n'a sans doute plus cours aujourd'hui.
Mais il faut le faire quand même.
Mais écoutez, je vais vous dire, sur ce sujet, vous pouvez décider que la voie démocratique n'a aucun sens. Si elle n'avait pas été purgée, j'aurais dit on peut reprendre le sujet, le remettre à plat, parce qu'en effet, je veux questionner les fondamentaux économiques et les principes. Il y a eu un vote, un référendum, il s'est exprimé.
Une consultation.
Il y a eu une consultation référendaire. Il y a des gens qui ont voté, M. Cohen.
Oui, vous mais ce n'était pas un référendum.
Mais il y a une consultation qui a été faite. C'est un référendum. Vous pouvez après avoir un débat sur le référendum. Je doute d'ailleurs que les gens qui ont aujourd'hui un débat...
Il a force de loi alors que la consultation, elle est là pour justement consulter la population.
Vous avez raison, simplement, c'est une consultation. Je ne dis pas que c'est un référendum tel que défini au titre de la Constitution. Je dis simplement qu'on a consulté le peuple dans un périmètre qui a été défini. Il s'est exprimé. Je suis pour respecter cette décision.
Johan nous appelle de l'Oise. Bonjour Johan.
Oui, bonjour. Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons.
J'ai une question. Je m'appelle Johan Dehors. Donc je suis commerçant indépendant et également contractuel dans l'éducation nationale. Je suis tellement en marche que j'ai candidaté pour une investiture dans la 6e Serco de l'Oise. Et je souhaitais connaître sur quels critères le comité va décider si tel ou tel candidat est capable d'être investi ou pas.
Bonjour, merci beaucoup pour l'engagement d'abord. Je suis très sensible au fait que justement, des gens comme vous, tout à l'heure la question m'était posée, avec qui vous allez gouverner, ben voilà, avec des femmes et des hommes, des Françaises et des Français qui veulent s'engager et refonder la vie politique. Et qui ne sont pas dans le système politique aujourd'hui, c'est-à-dire qui ne sont pas des élus ou des collaborateurs d'élus. Et vous en êtes l'illustration vivante. Il y a 5 critères qui seront retenus par la commission indépendante, qui sera annoncée dans les prochaines heures. Elle aura 9 membres avec un président. Moi, je n'en ferai pas partie. Ma responsabilité en tant que président du mouvement, c'était de définir les critères. Le premier critère, c'est un critère de renouvellement. C'est-à-dire qu'au moins la moitié des candidates et candidats qui seront investis par le mouvement ne seront pas des parlementaires actuels. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut changer la vie politique, renouveler les pratiques et avoir toujours les mêmes. Donc, il y a vraiment un critère de renouvellement.
Qui choisit alors?
Et la commission indépendante.
Dans cette commission,
il y aura 9 membres. Il y aura 9 membres. Je vais pas venir parce que les consultations se terminent pour avoir l'acceptation des uns et des autres. Ils seront dans les prochaines heures, mais ils auront une vraie responsabilité. C'est pour ça qu'ils réfléchissent aussi. Mais ce seront des responsables qui se sont tous engagés à ne pas eux-mêmes être candidats pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Mais donc, ce sont ces responsables et ce président de la commission qui seront en charge d'examiner tous les dossiers et qui d'ailleurs rendront compte. Et il y aura une commission indépendante d'éthique qui pourra être saisie par tout candidat malheureux. Donc, premier critère, renouvellement. Donc, vous faites partie de ce visage du renouvellement, Johan, puisqu'il y aura au moins la moitié des candidats investis qui ne sont pas élus. Deuxième critère...
Ah bah, s'il est choisi.
S'il est choisi, mais je dis, vous en êtes le visage potentiel. C'est aussi une garantie, parce que les autres mouvements politiques ne font pas cela. La deuxième chose, le deuxième critère, c'est le pluralisme politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que parmi celles et ceux qui sont aujourd'hui parlementaires, eh bien, nous reflèterons la pluralité politique du mouvement. Socialiste, radical, écologiste, UDI, Modem, Républicain, il y a plusieurs familles politiques qui sont aujourd'hui dans le mouvement, et donc nous serons attachés, la commission sera attachée à respecter ce principe de pluralisme politique qui permet de regrouper plusieurs familles politiques.
Oui, j'ai lu qu'il y avait même un ancien ministre socialiste qui demandait l'investiture, Daniel Vaillant, dans le 18e arrondissement de Paris.
Elle sera examinée par la commission indépendante.
Ah, il n'est pas sûr d'avoir le renouvellement. Il n'est pas sûr d'avoir la timbale.
Attendez, c'est pour ça que j'ai été très clair.
Oui, en matière de renouvellement, c'est...
Mais, oui, mais c'est pour ça que j'ai été très clair là-dessus. C'est important qu'on ait ce débat. Parce que c'est tout le débat qu'il y a eu sous-jacent sur les ralliements qu'on avait tout à l'heure en parlant de figures plus ou moins contestées de la vie sociale ou des ralliements politiques. Je ne sollicite pas les ralliements politiques. Il faut qu'ils se fassent sur des convictions. Mais je l'ai dit à chaque fois. Ralliement ne vaut pas investiture. D'accord. Les députés qui nous rejoignent vont se soumettre aussi à cette procédure parce que ça fait partie des règles et des garanties que je donne à celles et ceux qui ont forgé ce mouvement. C'est la promesse. Troisième critère, c'est un critère de parité et de diversité. J'ai fait un appel vendredi dernier parce que moi je veux investir 50% de femmes. Pourquoi ? Parce que c'est une responsabilité politique et c'est comme ça qu'on reflètera l'énergie de la société, la vitalité de la société française. On se prive de cette vitalité si on n'investit pas autant de femmes que d'hommes.
C'est la loi, en plus. Vous n'avez que 15% de candidats.
Mais aujourd'hui, non mais c'est la, je le fais pas parce qu'il y a des pénalités ou autre. Moi, j'ai pas de problème,
non,
j'ai pas d'élu aujourd'hui.
Mais je trouve que c'est la loi.
Donc, non mais c'est extrêmement important là-dessus parce que c'est aujourd'hui, j'ai que 15% de candidats. Depuis mon appel, on est monté de 5 points. Parce qu'il y a une forme d'autocensure. C'est-à-dire, on est passé à 20%. Il y a une forme d'autocensure. Beaucoup de candidates potentiels disent « c'est pas fait pour moi, comment je vais m'organiser ?» Donc là, d'ailleurs, j'en appelle aux auditrices et aux auditeurs qui veulent s'engager.
Oui.
Ne soyez pas pris dans des barrières psychologiques, des représentations culturelles qui fait que l'engagement politique, c'est forcément fait pour les hommes. Ça n'est plus vrai et on en a besoin.
Bon.
Quatrième critère, la probité.
Il y en a encore combien ?
Il y en a plus de
5.
Ah bon. Il y en a 5. Quatrième critère, la probité. Il n'y aura aucune investiture pour des femmes et des hommes qui ont un casier judiciaire.
Macron. La probité, c'est clair, le cinquième.
Non, attendez, et c'est très important parce que là-dessus, il y a des règles.
C'est Bernard Guetta qui s'impatiente.
Par rapport à ce qu'on dit depuis le début et depuis tout à l'heure, depuis le 6 avril, 2016, date de création du mouvement, il y a aussi la charte. Il y a dans les règles du mouvement l'interdiction stricte d'employer quelques membres de sa famille.
À propos de probité, Hugo de Lyon, 6e arrondissement, vous dit, puisque vous prenez la transparence, pourquoi ne publiez-vous pas la liste de vos financeurs ?
Alors, sur ce sujet, et je reviendrai sur le dernier critère qui est important.
Voilà.
Mais non, mais vous m'interrompez. Oh. Sur le critère de la probité, c'est pas une seule chose. La liste de mes financeurs, je suis prêt à révéler tous les financeurs qui l'acceptent. Simplement, il y a une loi. Aujourd'hui, moi, je me conforme à la loi. Toutes celles et ceux qui financent le mouvement, ce sont des dons de 1 à 7500 euros par personne individuelle
et pas plus.
Donc, par année, donc, fiscale. Il y a aujourd'hui, je crois, environ 20 000 donateurs dans le mouvement.
D'accord, donc des Français fortunés, des millionnaires dont les noms circulent, ils n'ont pas pu donner davantage que 7650 euros.
Ah, mais c'est impossible. Non, je me conforme à la loi, si vous voulez, là-dessus. Et je serai scruté de près, ce qui est normal. Je dois la transparence complète à la commission des comptes de campagne. Donc évidemment, ils auront le dossier. Il y a un formulaire qui est fait. Il y a même parfois des refus qui sont faits quand la personne n'a pas les conditions de probité requises. Et donc, tout ça est scruté de très près.
Et vous venez d'avoir un emprunt.
Simplement.
Vous venez d'avoir un emprunt pour financer votre campagne.
Et je vais solliciter un emprunt.
Ah, vous ne l'avez pas eu ? J'ai lu que vous l'aviez eu.
Non, c'est en train d'être finalisé techniquement. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais parce que les sondages sont bons, parce que le risque est en dessous de 5%. Mais ce qui est très important à comprendre pour votre auditeur, parce que les autres font beaucoup de démagogie sur ce sujet, c'est que de par la loi, vous ne pouvez pas révéler le nom de vos donateurs parce que simplement vous vous engagez à ne pas révéler ça. C'est comme le secret fiscal. Donc eux peuvent le révéler. Donc moi j'invite toutes celles et ceux qui me soutiennent à le révéler publiquement, à le mettre sur leur page Facebook ou à le dire. Parce que j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais moi je ne peux pas le faire de par la loi, c'est interdit. Dernier critère
N'espérez
pour être investi.
N'espérez pas en ajoutant des critères encore, vous passez de Nicole Ferroni.
Ah non.
Je vous promets.
Non,
c'est le dernier critère, il est important.
Elle va arriver.
C'est que chaque candidat,
ça sera là, toute façon.
Que chaque candidat qui sera investi signera avec moi le contrat avec la nation. C'est-à-dire qu'il s'engage à voter, à mes côtés, les grands projets, c'est-à-dire à soutenir notre projet. Il n'y a pas de frondeur. Et donc, ce sont des femmes et des hommes qui croient au projet. Il n'y a pas d'opportunisme. Il n'y a pas des gens qui peuvent être investis en disant bah « Moi, sur le cœur de votre projet, ce à quoi vous vous engagez vis-à-vis des Français, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de vos réformes, je ne suis pas d'accord, je ne le voterai pas. » C'est ce qu'on vit depuis 20 ans. Et donc, c'est ce qui crée la sincérité, la clarté du projet politique. Voilà les 5 critères en transparence qui seront retenu par la Commission nationale d'investiture. C'est comme ça qu'on refonde la
politique. Très bien, Emmanuel Macron.